Kimishimiga, c'est la 480e émission de Plume et Pinceau qui vient de commencer. Qu'est-ce qu'il y a, Roger ?
Moi, je dirais 479, mais...
Non, il y a erreur sur votre grand cahier, le blog a parlé.
Ok.
D'ailleurs, là, on voudrait avoir quelques explications sur pourquoi le cahier n'est pas à jour, monsieur Roger. C'est votre job.
C'est ce que je comprends pas, 474, 475, 476, 477, 478, 479.
Eh ben, selon le blog, on est à la 480.
Eh ben, en tout cas, on a fait quand même pas mal, voilà.
Oui, on peut être content, on peut être content.
On sera soit à la 479 selon le grand livre, papier.
Sait-on vraiment quand on est ?
Ouais, voilà. Hein ? Et puis, de toute façon,
le temps
ne reste que le papier. Exactement. Ça, le papier des traces.
Ah, on verra. Le cloud a des pouvoirs que vous ne mesurez pas assez. Une émission de bande dessinée, voilà. Une émission de chronique, du courrier des lecteurs, un bon vieux plume et pinceau, quoi. Peu importe le numéro, c'est toujours... peu importe le cru, il est toujours de bonne qualité.
Voilà.
Avec, bien entendu, des interludes musicales. Oh, elle fait son retour et elle fait un retour en fanfare, l'ami. Souvenez-vous d'Amil and the Sniffer. Un nouveau morceau vient de sortir et c'est une tuerie. Je vous propose de l'écouter right now. Amil and the Sniffers, ce morceau est bondissant. bondissant,
tout à fait,
j'ai envie
tout
de dire.
À fait. Elle bondit, mais avec un nom pareil, est-ce bien étonnant?
Alors, tonton Roger a toujours quelque chose à dire.
Eh oui, vous l'avez sûrement oublié, parce que vous n'y avez pas pensé, mais Mickey, le journal, en tout cas pas le personnage, mais le journal de Mickey, fête ses 90 ans, mon bon Erwan.
C'est 90 ans, il est ouais. Donc d'une année en 4, qui donc, se finit par un 4.
Tout à fait, le journal de Mickey a débuté à Paris sous l'impulsion de Monsieur Paul Winkler en 1934. D'accord. C'est le fondateur de l'agence de presse Opéra Mundi, créée en 28 et disparue au cours des années 90. Spécialisé dans la diffusion de bandes dessinées, notamment à travers les magazines Le Journal de Mickey en 34, pardon, Robinson en 36, Hopla en 37, Opéra Mundi a publié des comics stricts rachetés au King Feature Syndicate. Et il est toujours, faut quand même savoir que l'agence est toujours détentrice des droits de bandes dessinées Disney en France, ainsi que de d'autres comics américains.
Ouais, mais Disney, c'est bien bouclé, il paraît.
Ouais. Mmh. Et pour fêter ça, il y aura le journal de Mickey le 16 octobre 2024, précisément, sortira un journal anniversaire exceptionnel à ne pas manquer pour les collectionneurs de la souris milliardaire.
Yes, c'est marrant, c'est finalement une année d'anniversaire pour Disney, puis aussi pour nous, on peut le dire, hein, on est rentré dans la phase de festivité des 40 ans au moment même où on enregistre cette émission.
Tout à fait.
Les comparses sont dans le studio d'à côté en train de faire une espèce de 24 heures du monde de la radio, mmh. On peut les saluer. Et du coup, je pense un peu aux anciens et je ferai bien une petite dédicace de cette émission à Yvan qui nous avait permis de la lancer, cette émission.
Tout à fait.
Ouais, on peut faire ça ?
Tout à fait.
Ok.
Je termine avec une deuxième, bref, j'en ai trois en fait.
Mais la troisième... Moi j'ai aussi une news.
Ah bah à ce moment-là, vous en faites une, on met un dix et puis voilà.
D'accord. Second prix Gottlieb.
Ah mais oui, vous avez raison.
Ah, alors, est-ce que vous vous souvenez?
Oui,
c'est du First One.
Alors du First One, non. Du premier prix Gottlieb, non.
C'était Larsenet.
Ouais, et ben là c'est Monsieur Mo CDM.
À pas confondre avec... Julien CDM. C'était effectivement un duo au départ, c'est pour ça qu'il y a ce CDM commun.
Voilà.
Ouais, il a eu le second prix, donc rappelons, c'est un prix lors du Festival du Livre de Paris, si je me trompe
c'est
pas,
ça.
Qui récompense un album pour sa dimension humoristique,
tout
évidemment.
À fait.
Il y a la fille, je crois, de Monsieur Gottlieb qui veille au sérieux entre guillemets de cette entreprise.
Et qui tient d'ailleurs, alors je sais pas si elle est ailleurs, mais en tout cas sur Instagram, on peut s'abonner à son flux fort sympathique où elle publie plein de trésors de son papa, des dessins quand il était petit ou des textes et puis des anecdotes. C'est très très intéressant.
Ouais, et donc il vient de recevoir le prix. Je crois qu'il a sorti récemment Génoir, La guerre des générations.
C'est ça.
Il tirait sur mon doigt, Monsieur le Président. Il était sur d'autres trucs aussi. Il est venu de Flux Glacial.
Il est toujours dans Flux Glacial.
Il est toujours, ouais, c'est ça dont j'étais pas tout à fait sûr à 200%.
Si, il est toujours dans Flux Glacial, c'est paru aux éditions Flux Glacial, il était également dans le psychopathe, faut le rappeler aussi.
Ouais.
Donc voilà, je suis bien content parce que c'est un monsieur qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qui est fort sympathique, ma foi, monsieur Mo CDM. Un petit X alors.
The Roots, l'ami, Ranking Full Stop. I said stop. C'est pas des conneries, c'est les roots. Et oui, ça a redémarré, mon bon Roger.
Mais c'est, naturellement, comme c'est un morceau de la programmation, ça s'adressait naturellement pas à l'excellent morceau des roots que nous venons d'écouter et qui ne nous rajeunit pas. Tiens, un autre truc qui nous rajeunit pas non plus, c'est Pilote, la naissance d'un journal qui est sorti il a été publié par un collectif aux éditions La Déviation.
C'est un album de BD, vous faites une chronique là?
C'est un
communiqué de presse.
Non, c'est mieux que ça. C'est un magazine. Un ouvrage historique sur le journal Pilote. Ah oui. Et c'est donc, on doit ça à l'énergie de monsieur Michel Le Bailly, qui avait dû en 2013 fermer sa belle librairie Goscinny, située rue Goscinny à Paris, est parti s'exiler en Normandie puis en Creuse et s'est reconverti en éditeur qui revendique son indépendance et son absence de spécialité, même si il est, maintenant vous savez que la BD s'est tellement développée, aussi on a de plus en plus d'ouvrages, d'histoires, de la BD, d'histoires de journaux, et donc sous la bannière de La Déviation en hommage à la BD de Moebius, il s'est attaqué à un énorme livre cartonné, illustré en couleur de 320 pages, à propos du journal Pilote, qui est né, lui, le 29 octobre 59, avec d'office des numéros, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, mais des héros qui vont devenir des classiques, naturellement Astérix, le petit Nicolas, Tanguy et la Verdure, Barbe Rouge, et un esprit qui, au fil des ans, montrera que la BD a définitivement quitté le territoire réservé aux plus petits. Ce docte ouvrage énorme, un pavé dans la mare, pourrait-on dire, coûtera 50 euros. 50 euros, ça les vaut largement. Lorsqu'on voit le travail qui a pris plusieurs années, je crois que ça a pris 3 ans pour réaliser cet ouvrage commun, au sein duquel on trouve la fine fleur des critiques BD, des gens qui ont connu, ils ont interviewé les derniers témoins, dont Monsieur Dionnet naturellement, Christian Castelnic, Patrick Gomer, Clément Lemoine et Michel Le Bailly portent à bout de bras cet énorme travail historique sur la bande dessinée, sur le journal Pilote. L'us-tu cru qu'un jour. Et enfin, ça ne s'adresse pas à vous, malheureusement, ni à moi, non plus.
D'accord, je m'en vais.
Et non plus à Christian Clavier, mais des figurants sont recherchés pour le film Natacha, hôtesse de l'air.
Et pourquoi je pourrais pas faire Natacha?
Parce que vous pouvez pas faire la doublure de Natacha quand elle tombe.
Elle est rouquine.
Non, elle est blonde, Natacha.
Ah, vous me foutez.
Elle est blonde, Natacha. Et en fait, c'est parce que il faut avoir entre 18 et 26 ans, même sans expérience de tournage, et accepter l'éventualité d'une coupe de cheveux classique et obligatoirement glabre ou rasée de très près.
Effectivement, elle est blonde. Ouais.
Ouais, ouais. Et par ailleurs, les tatouages, mon bon Erwan, sont interdits.
Ah.
Voilà. Bon, donc vous ne pourrez pas jouer dans Natacha, hôtesse de l'air.
J'en suis fort, Marie.
Ouais. C'est à vous que j'ai pensé quand j'ai vu cet article-là, merde, lui qui est mon vieil ami qui voulait percer dans le cinéma.
Pour une fois, ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air.
Encore raté. Mais voir s'il y a des cascades, effectivement, si on vous met une perruque blonde pour faire les cascades de Natacha, je ne sais pas s'ils ont trouvé le cascadeur déjà.
Il va
falloir une cascadière.
On a reçu du courrier.
Ah.
On a reçu du courrier, alors ça devient un fidèle de notre émission, on pourrait bientôt lui donner un rond de serviette, hein. C'est le petit Christophe, 7 ans et demi du Luxembourg, qui nous a écrit pour nous parler d'Abemus Bastard, tome 1 de Sylvain Vallée au scénario dessin, mais au scénario il y a aussi monsieur Jackie Schwartzman. Et c'est paru chez Dargo. Alors apparemment, si je comprends bien ce que m'explique le petit Christophe, c'est l'histoire de Lucien. Lucien, apparemment, il a quelques compétences physiques qui en font un bonhomme à tout faire. Idéal pour bousculer des gens, récupérer des sous, tu vois. Si des fois, t'avais des fâcheux qui prenaient un peu trop de temps pour rembourser leurs dettes, Lucien est là. Donc, Lucien a un patron qui l'envoie faire des missions comme ça, où il doit faire montre de certaines capacités physiques à faire comprendre à des gens qu'il vaudrait mieux s'acquitter de sa dette. Et là, le dernier coup qu'il fait... Un coup qui est un peu foireux quand même, on l'envoie un peu secouer, le neveu préféré du patron, hein, qui est un criminel notoire. Et si tu veux, là, Lucien, il fait un peu trop de zèle, pas vraiment malgré lui, mais disons qu'il y met du cœur à l'ouvrage, quoi. Et ben le neveu, il y passe. Oh. Oups, la boulette. Donc du coup, Lucien, bien évidemment, il est en fuite, hein, parce que son patron, il pardonnera pas. Et alors, il aurait pu faire à peu près n'importe quoi pour sauver sa vie, nous dit Christophe, prendre l'avion, s'engager dans la Légion, tu vois, etc. Mais non, les circonstances font qu'il va trouver un habit ecclésiastique et l'endosser. Et apparemment, c'est ça l'histoire. Du coup, tu comprends le titre, en fait, tu vois, Abemus, le côté clérical et bastard, tu vois un truc à la Tarantino, c'est assez rigolo. C'est une histoire qui est prévue en 2 tomes. Alors, dessinée par Sylvain Vallée, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est, rappelons que c'était, il était une fois en France, par exemple, au dessin, et vous verrez la qualité du monsieur. Apparemment, ça démarre bien, ça démarre sur les chapeaux de roue, et donc, les dessins à l'ambiance griffe sont magnifiques, les personnages sont très attachants, j'ai hâte de lire la suite, et surtout, vous, ne changez rien, vous êtes les plus beaux. Moi, je dis que ce gars a du goût. Christophe, vous avez du goût, et je valide votre chronique, avec grand plaisir, dans son intégralité. Interlude musical ou quoi ?
Tout à fait.
Yes. Allez, je vous propose un petit... C'est français ça, monsieur. Ça s'appelle Johnny Carwash et regarde-moi l'énergie déployée par ce petit groupe français. La chanteuse n'a pas 15 ans. Votre propension à avoir des petites filles partout m'inquiète.
Non, c'est votre propension à en passer à l'antenne, surtout qui m'inquiète.
Pas du
parce
tout.
Que...
Pas du tout. Je m'inscris en faux.
C'est ça, vous direz ça au juge.
C'est parce que vous avez l'habitude d'écouter des chanteuses à la voix éraillée par la clope et le whisky.
Bah ouais, que je vous dis.
Donc tout ce qui est un peu clair comme voix, ça vous plaît pas? Ça vous interpelle?
Alors c'est quand même une année olympique. Alors je sais pas si on va ramener beaucoup de médailles, dont celle du ping-pong. Alors, je sais pas quelle est la nation en tête.
Vous voulez mon avis?
Les Chinois, sans doute.
Un pays asiatique, il y a une grande chance.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mauvais au ping-pong. Et comment la diplomatie du ping-pong? Où un hippie rapproche, comment un hippie a rapproché la Chine et les États-Unis, un récit complet paru chez Delcourt que nous devons à messieurs Alcante et Alain Mounier. C'est, alors, moi, pourquoi ça m'a intéressé? Parce que le ping-pong, c'est à peu près sans doute le seul sport que j'ai jamais aimé. parce que ouais, je trouve que même en étant parfois moyen, on peut aussi si l'adversaire est un peu bourré, on peut créer la surprise. Mmh. Et alors qu'avec nos sports, comment on... c'est un sport qui est facilement accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Alors bien sûr, après quand on devient professionnel ou même amateur éclairé, etc. Je suppose qu'après avoir passé des heures, on devient bon.
Affûté comme un rasoir.
Voilà, affûté comme un rasoir. Mais je trouve que c'est un jeu éminemment populaire auquel beaucoup de gens peuvent jouer. Je me rappelle
Ça m'a l'air plus compliqué que ça n'a l'air. Je crois que c'est vraiment, il faut des capacités de réflexe quand même assez violentes.
Ouais, mais je me rappelle avoir vu mon fils jouer avec ses grands, ses deux grands-pères.
Là, on est à un niveau où ça fait tchac, 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 tchac.
Alors, pas exactement. Alors, la diplomatie du ping-pong, on est en 71.
Très bonne année.
Oui, bon cru, sans doute.
Je suis né en 71. Ah. Très bonne année,
donc. Et donc, la diplomatie en 71, on est en pleine guerre froide, les Américains sont toujours embourbés au Vietnam, c'est Nixon au pouvoir aux États-Unis, et les Américains ne savent plus trop comment faire pour se sortir de cette situation-là, d'autant que la Chine et les États-Unis n'ont strictement aucune relation. Et les Américains, notamment par la parole de Kissinger, aimeraient bien renouer un petit peu avec la Chine pour faire le pendant face aux Russes, d'autant que quelques années auparavant, les Russes et les Chinois ont eu des différends militaires, hein, il y a eu des morts, etc., sur certaines provinces perdues, dans le nord de la Chine. Bref, comment essayer de se réconcilier avec les Chinois pour faire chier les Russes? Eh bien, la réponse va venir des mains, ou plutôt de la raquette, de monsieur Glenn Cowan. Glenn Cowan, regardez, on dirait Jim Morrison. Il y a une photo de ce personnage authentique à la fin de l'ouvrage. Regardez. Ah ouais, authentique hippie. Là, il est en 71 dans les rues de Pékin. Je sais pas si vous voyez, quoi. Il est regardé comme un extraterrestre. Il est entouré par des centaines de Chinois qui le regardent comme un extraterrestre. C'est dingo. En fait, Glenn Cowan, un improbable joueur de ping-pong, le ping-pong qui jusqu'alors aux États-Unis était vu comme un sport de fillette et n'était absolument pas... les Américains s'en foutaient, d'autant que les maîtres à l'époque, c'était les Japonais depuis que les Chinois faisaient la gueule et qu'ils faisaient plus aucune compétition.
Voilà. Ouais, okay.
Et donc, c'était les Japonais les patrons, et Glenn Cowan réussit à gagner son ticket pour la finale au Japon, la finale en 71 au Japon. Et là, de manière totalement improbable, cette espèce de joueur, un joueur assez moyen en fait, hein, mais très bizarre, c'est-à-dire que quand même un mec qui avait amené un petit peu d'herbe avec lui quand même pour fumer un peu de diable, son entraîneur était « Ben oui, coach, mais c'est juste pour me détendre après le match, quoi. Oui, je comprends bien. » Donc vous voyez le genre, et ce monsieur-là va rater le bus de sa délégation après s'être entraîné.
Je suis surpris qu'il rate le bus.
Ouais, moi aussi, franchement.
Avec ce profil de personnage, on s'y attend pas.
Et il est très couillon, il rentre dans le bus chinois, et puis il commence à s'expliquer, quelqu'un parle américain, il y a un interprète chinois qui se lève, il dit « vous allez pouvoir me rapprocher de mon hôtel », et il s'installe à côté d'un joueur qui n'est autre que, alors il faut que je retrouve le nom, et pas le salopé, le pauvre malheureux, monsieur Zhuang Zedong, qui est le champion national chinois, et qui est là aussi pour cette finale. Et lors de cette rencontre totalement improbable, eh bien Glenn Cowan et ce monsieur vont devenir amis. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment sympathiser. Et grâce à ça, eh bien, les Chinois vont avoir...
Papi Zhong, il avait fumé ?
Ouais, je sais pas, ils ne le disent pas dans l'ouvrage. Et la Chine va officiellement inviter l'équipe américaine à se produire en Chine.
Ah, parce qu'il est une star, donc il est écouté un peu par le parti, c'est ça ?
Pas vraiment, c'est un monsieur qui a eu un parcours très compliqué toute sa vie, hein, ce joueur de ping-pong, parce que il va gravir petit à petit les échelons, il va même finir ministre des sports en Chine, mais il va être écarté après la mort de Mao, il va passer 4 ans en prison, puis 5 ans en exil dans la province de Shaanxi.
Ouais, mais ça c'est un peu obligé quand tu veux être aux politiques en Chine, il faut un moment tu sois en prison ou exilé, c'est pas possible.
Et il va connaître une scène terrible, notamment pendant la révolution culturelle où il y a plus le droit de jouer au ping-pong, quoi, parce que c'était
tu pouvais pas faire grand-chose, hein, franchement. Ouais, donc part peut-être les chants.
Et ce monsieur là, qui avait souffert, hein, il était dans cette équipe et il va se faire que les Chinois disent tiens, on va inviter, dans la foulée là du voyage au Japon, les Américains vont être invités à aller en Chine pour se produire en Chine et rencontrer des équipes chinoises. Et lors de certains matchs, les Chinois vont perdre exprès. Parce qu'il s'agit de ne pas humilier l'autre, etc. On tombe dans le domaine de la diplomatie, et c'est ce que montre bien cet ouvrage, La diplomatie du ping-pong. Un ouvrage assez épais, hein, c'est très, très, très copieux, parce que l'Odyssée est assez longue, ma foi. Et cet album est suivi par une notice biographique qui nous replace un petit peu dans la géopolitique de l'époque. Mmh. Et on voit les photos de notre hippie avec le champion chinois sortie.
Et graphiquement, alors ça ressemble à quoi?
Très réaliste. On a affaire à une BD réaliste. Glenn Cohen, on dirait qu'il a la tête de Docteur Justice. Espèce d'hippie, un hippie réjoui. Peut-être que, il fumait beaucoup, je sais pas. Mais il faut quand même savoir que c'est grâce à l'amitié improbable de Glenn Cohen avec ce champion chinois que les États-Unis vont reprendre langue et finalement, en 72, par reconnaître la Chine populaire à la place de Taïwan, ex-Formose, à l'ONU et au Conseil de sécurité.
Ouais.
C'est donc La diplomatie du ping-pong, collection coup de tête chez Delcourt.
La BD que je vous propose, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est une BD qui s'appelle Les ennemis du peuple, qui est fait par monsieur Emilio Pagani et dessiné par monsieur Vincenzo Bisali. Ça vient d'Italie et c'est vraiment très chouette parce que moi qui suis passé par la Lorraine, finalement ça a fait des échos, je trouve, cette bande dessinée. Les ennemis du peuple. On va suivre une usine en grève. Et on va voir comment...
Ah oui, c'est pour ça votre rapport avec la Lorraine, parce que je comprenais pas. Au début, on était en Italie, et après, en passant par la Lorraine...
Hein. Non, on pense plutôt à de l'Italie du Sud, et un pays industriel, quoi. Et là, en fait, l'industrie du coin, l'usine du coin, va fermer. Les Allemands qui l'ont racheté, finalement, vont très vraisemblablement délocaliser. Donc, on est dans les derniers instants. Et on va voir qu'autour de cette situation de crise, on va faire un constat, en fait, de qu'est-ce que c'est devenu la classe ouvrière et le peuple, quoi. Et notamment comment le peuple s'est finalement séparé de la notion de classe ouvrière. Si tu veux, il y a un personnage un peu central, c'est Hannibal. Lui, c'est un vieil ouvrier syndicaliste. Il est fier d'être ouvrier, tu vois. Il pense que dans ses mains, il y a de l'or. Il a cette espèce, vraiment cette conscience de classe. Mmh. Et cette dignité de l'ouvrier. Et ce qu'il constate en fait pendant cette grève, c'est qu'en fait la conscience de classe justement s'est perdue. Les gens ne pensent plus en tant que force collective de travail. Ils sont tombés dans des travers individualistes. Son fils notamment, qui travaille lui aussi à l'usine, considère que son père est has-been, parce qu'il faut bien le constater que finalement la classe ouvrière est laminée par la puissance financière. Ça s'est vu dans plein de pays, et pas seulement en Italie ou en Lorraine. Et on va vivre la situation de crise que provoque ce drame social à travers différents personnages. Donc le père, le fils...
Et le Saint-Esprit.
Non, et la fiancée de ce fils qui, elle, travaille pour une organisation d'accueil de réfugiés. On est en Italie, on pense à l'Italie du Sud, et ça aussi, ça crée des tensions, notamment autour de la notion de travail, quoi. L'étranger vient nous piquer notre travail. Il y a un casse qui se prépare aussi parce que certains ouvriers n'ont plus rien à perdre, donc pourquoi pas tenter un grand coup à coup de flingue pour se faire un peu de sous. Et tout ça va virer au drame, quoi. C'est évident. Et c'est traité, donc c'est une espèce de comédie sociale, enfin de tragédie sociale, un peu dans la Ken Loach, en fait, je dirais, dans l'esprit. Mais ça se passe donc dans l'Italie, et moi j'imagine plutôt une Italie du Sud. Donc vous ironisez et vous gozez, mais c'est vraiment un très chouette album.
Ah non, moi j'ai même pas vu, vous m'avez même pas dit chez qui c'était paru, comment voulez-vous que je l'achète?
C'est chez Glénat. Alors ça s'appelle Les Amis du Peuple. Emilio Pagani au scénario, Vincenzo Bizzari au dessin. Alors un petit mot sur le dessin, là aussi on est dans le réaliste, hein. Et il y a une trouvaille que je trouve aussi très chouette, ça va se voir graphiquement et c'est en regardant, en refeuilletant la BD que je le vois. Par moments vous tomberez sur des planches en noir et blanc qui ont l'air comme des crayonnés. Mais presque un peu, petit peu amateur. C'est parce qu'il y a un ouvrier qui dessine une BD et qui essaye de la placer, où il raconte un peu ce qu'il est en train de vivre en tant qu'ouvrier, mais en le transposant dans un monde un peu d'héroïque fantasy et où le peuple lutterait pour avoir du feu et rester au chaud. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment plein de trouvailles. Ça finit mal, hein. Ça finit mal. Ça peut pas bien finir une histoire comme ça. Du coup, c'est un côté très crépusculaire. Avec ce dessin réaliste, pareil, les ciels sont un peu froids, un peu gris, il y a des scènes de nuit, tout est un peu plombé. Mais c'est vraiment un très bel album. C'est vraiment un très bel album. Les animés du peuple, donc Monsieur Pagani et Monsieur Bizzari, et ça paraît chez Glénat. Interlude musical. Yes. Allez, dance sur du pop rock. Ça vient de la programmation à Roger. On l'a réentendu chez vous l'autre jour. Chiki chiki on the nose bleed. Chiki chiki, les nez qui saignent.
I am the girl with no lips, but I can keep a hula going around my hips, you see. I am the girl with no hips, but I can keep a piece of cotton in my mouth till it whips. We work in the same place, looking after slow kids, and we never ever take it too far. Slow kids, slow kids, slow kids, slow kids. Well, she might have a falling taste, and sometimes her shoes aren't even laced, you see.
Le jazz. Chiki Chiki and the Nosebleed, le morceau s'appelle Slow Kid, je pense que tout le monde l'a compris. Alors, Tonton Roger a toujours quelque chose à dire, et Tonton Roger aime beaucoup les animaux, surtout les félins.
Alors, c'est vrai que j'aime bien les chats, les autres, les félins, si vous attiquez le tigre, l'oslo, la panthère, vous imaginez bien, c'est toujours un petit peu dangereux.
Et, certes.
Déjà, pour un, chez un vétourien qu'avec un petit kiki, ça vous coûte déjà une blinde, vous imaginez avec un tigre. Non, Métal Hurlant leur rend hommage, avec Métal Hurlant et Renakit ses cendres.
Il a eu du mal à sortir, celui-là.
Ah, putain. Et là, j'ai pas été, alors le premier, j'avais dû acheter le tout premier, on l'avait chroniqué, et après, j'étais pas pleinement convaincu.
Ça dépendait, moi, de temps en temps, ça dépendait un peu des thématiques.
Bah,
moi, j'ai pris
surtout,
des trucs,
je trouvais que c'était un mélange, d'énormément de vieux matériel.
Ah bah, moi, ça m'intéresse.
Ouais, ouais, que j'avais déjà. Donc,
de toute façon, ça s'adresse plus à moi qu'à toi qui a la collection originelle.
Et donc, mais là, par contre, c'est bien parce qu'on a le droit à un Métal Hurlant spécial chat. directement assurée par les soins de Monsieur Jean-Pierre Dionnet. Et là, himself. Ça change himself. Et c'est lui qui a fait donc le choix de toutes les autrices et les auteurs que l'on. Et il y a un paquet d'histoires, c'est fort épais, métal hurlant spécial chat avec une jolie couverture en pastel, mais quand même qui laisse deviner quelque chose de bizarre. Parce que le chat, dans l'imaginaire.
Le connaît-on vraiment?
Ouais, le connaît-on vraiment? C'est comme les champignons. Et naturellement, ça aurait été avec les chiens, ça n'aurait certainement pas eu la même gueule, parce que avec les chats, il y a toujours un côté un petit peu magique, transcendant, on va faire dans la sorcellerie, dans la science-fiction, et c'est jamais très clair. Il y a peu d'histoires de chats, je dirais, de chats normaux, et même quand ils sont normaux, l'auteur, en l'occurrence,
qu'est-ce
je pense...
normal.
Ouais, je pense à, comment dirais-je, monsieur Jean-Claude Denis, ça fait plaisir de le retrouver, avec une super histoire d'un chat qui quitte la maison pour y revenir plus tard, et on découvre pourquoi. Et donc là, effectivement, il n'y a rien de fantastique, juste un chat très malin et opportuniste. Et comment... mais ne le sont-ils pas tous, les chats, justement? Mais pour le reste, effectivement, on est dans le fantastique et dans la science-fiction, et on a la joie de, à partir de la page 222, de retrouver notre ami Laurent Lefebvre dans une nouvelle intitulée L'œil du chat. Naturellement, la référence à L'œil du chat de Moebius. Et c'est
il est malin, il arrive toujours à faire des clins
d'œil.
Et
puis,
il est fort le
bouquin. Il est fort, comment le Laurent. Et regardez, c'est toujours pareil avec Alain Willesner dès la première case.
L'histoire est posée. Ce truc sur les lumières aussi.
Ouais,
il a un truc sur les lumières, elles sont un peu vertes comme ça, c'est toujours un peu
Il travaille sur fond noir et puis du coup, les couleurs, il les fait ressortir à partir du noir et ça change beaucoup de choses. Et l'histoire est terrible. Mais il n'y a pas que lui. Il y a, je vous dis, une tripotée d'autrices et d'auteurs. Je vous ai parlé de Jean-Claude Denis, que j'ai eu le plaisir de retrouver. Il y a quelques vieux. Il y a on voyait un dessin de Bilal. Il y a Monsieur Chabouté qui, lui, ne livre pas une histoire, une histoire en plusieurs pages, mais une succession de grandes cases traitées en noir et blanc intitulées
Les illustrations.
Ouais, les chats de Chabouté, c'est magnifique. Ça permet de découvrir, c'était aussi ça le but de Métal Hurlant dans le temps. Ah, il y a la mère Sestac aussi qui est présente.
La mère Sestac, Madame Sestac,
Madame
Sestac, elle mérite quand
voilà,
même.
Mais voilà. Oui, mais bon, voilà, parce que c'est quelqu'un qui fait partie des meubles aussi, quoi, et qui est pas, c'est pas une perdrix de l'année, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a
vous faites dans le jeunisme là.
Ouais, parfaitement. et puis il y a plein de choses bien plus jeunes que vous. Et moi, même que vous, je vous ferai dire. Et plein de choses que
c'est
et...
facile, ça.
Eh ben, parce que vous non plus, vous n'êtes pas jeune. Et je sais pas pourquoi, j'ai adoré Les Chats Sentinelles d'Alexandre K. Une espèce de drôle d'histoire avec un trait ligne claire, fantastique, très très bizarre. On se croirait un peu dans une espèce de contes médiévales, mais en même temps matinée de fantastiques bizarres, même quelque part druyesque avec des espèces de petites vignettes.
Ouais, avec tous ces cartouches ronds.
Ouais, des espèces de cartouches ronds à la Druyet. Et c'est superbe. Je sais pas pourquoi. Il y a une histoire entre deux peuples qui se battent, un qui vénère les chats et l'autre non. Et celui qui vénère les chats l'emporte parce que les chats, c'est bien utile pour lutter contre les rats qui foutent là de la merde. Il y a aussi pas mal de rédactionnels avec pas mal d'articles concernant les chats à travers l'image, donc au cinéma, mais également dans la musique et naturellement dans la bande dessinée. Un ouvrage vraiment très complet, à réserver il n'existe plus chez vous, mais on peut le trouver en librairie, le commander, et c'est véritablement pour moi, ça c'est la BD de l'été qu'on emmène sur la plage, vous voyez.
Ouais, tout ça, c'est conçu un peu comme ça. C'est,
voilà,
c'est,
voilà,
pas, c'est un
voilà,
moog, je crois
voilà,
qu'on appelle ça.
Voilà. Il ne faut pas oublier, après, en plus, parce qu'il est possible qu'il pleuve, donc comme ça, enfin, s'il pleut, vous sortirez pas, mais vous aurez quand même toujours quelque chose à lire. Métal Hurlant, spécial chat, excellent. Le chat dans tous ses états, sous la direction de monsieur Dionnet.
Moi, j'ai un petit roman graphique à vous proposer. Ça s'appelle Mardival. Mardival, en fait, c'est le nom d'un comté où il y a un château. Dans ce château, il y a une famille, et la famille, Mardival. Et il y a aussi une petite servante qui s'appelle Moira. Et en fait, on va suivre les aventures de Moira. L'histoire va commencer principalement quand la famille donc du château de Mardival, les Mardival, et peut-être on dit les Mardivaux d'ailleurs, se réunissent pour célébrer leur ancêtre, leur illustre ancêtre, le comte Albinus de Mardival. Au cours des festivités, Maïra a fait une boulette, quoi. Elle est un peu, c'est une jeune fille un peu maladroite, un peu tête en l'air. Elle renverse les reliques sacrées. Et là, en fait, malheur sur elle. Normalement, d'après la légende, elle est maudite à partir de là. Et une créature devrait arriver, un monstre, et pour la tuer. Et donc, elle est rejetée par tous les châtelains, la population, ça. Elle est foutue dehors. Pouf, paf. Parce que on voudrait pas que le monstre déboule au château. Et elle va se retrouver à coquiner avec un type qui vient de déserter d'espèce de garde d'honneur de ce château. Alors garde d'honneur, c'est peut-être beaucoup dire parce que tu sens très bien que ces gars-là en fait en sous-main, c'est un peu comme tu vois la garde prétorienne à Rome quoi.
Sait jamais pour qui ils travaillent.
Ouais, peut-être même qu'ils travaillent pour eux.
Ouais.
Et donc ce déserteur et elle vont prendre la route poursuivis par la garde qui veulent rattraper le déserteur et peut-être aussi effectivement par un monstre. Et ça va nous amener à en découvrir plein de choses, notamment sur les origines de cette petite Moira. Bien évidemment, il y a de la trahison, il y a de l'aventure, du retournement de situation. C'est plutôt bien rythmé. T'as un chouette petit roman graphique. Yann Kosik, il a cette espèce de dessin un peu naïf que vous souvenez peut-être, il avait déjà sur le gentil orc sauvage. Ça date un peu. C'était chez Delcourt également. C'est plutôt fort sympathique. J'aime bien. Et à un moment, il y a trois espèces de brigands. Il y a toujours des brigands, mais tu sais, des brigands un peu foirousses, quoi. Tu sais. Pas vraiment méchant,
mais presque.
Truand quand même sur les bords, et un peu con-con, tu vois, qui ramène une petite touche comique. Je dis pas que c'est une aventure d'une totale innovation, mais c'est vraiment très plaisant et très efficace. C'est quand même un petit bonbon. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit one-shot. Je trouve que le bouquin est très beau. En plus, il a une espèce, il est entièrement toilé. C'est tout sympa au toucher avec un joli douron. Voilà. Ils disent qu'un monstre va me chasser pour me manger, mais c'est juste des histoires pour faire peur aux enfants, non? Eh ben, vous en saurez plus si
alors,
vous lisez.
Alors, redites-nous tout. Mardival.
Mardival, de Yann Kosik. Ça paraît aux éditions, Glénat. Et c'est fort réussi. On a le temps encore d'un petit interlude musical, ça vous va?
Ah bah oui, avec grand plaisir.
Alors là, je vous sors un vieux truc des cartons. C'est pour des vieux, quoi. C'était les types nés dans les années 71 qui seraient passés aussi par l'Allemagne avant de passer par la Lorraine et de revenir dans le coin. J'avais vu ça et j'avais aimé ça. X-Mal Deutschland, Matador. Je reconnais, il y a quelque chose de Suci and the Banshees, des B-52, mais c'est ces années-là, c'est ces bonnes vieilles années-là. X-Mal Deutschland, le titre, c'était Matador. Alors, vous me laissez placer la dernière BD, je vous en remercie. Surtout que c'est vraiment une chouette BD qui vient de sortir, Monsieur Panacion et Monsieur Di Gregorio. Tiens, c'est ma deuxième BD, finalement, plutôt d'influence italienne, puisque Monsieur Panacion est installé à Milan, bien que ça soit un dessinateur de nationalité française. Il travaille avec un scénariste qui s'appelle Di Gregorio, et là, il nous propose avec L'Homme en Noir vraiment une histoire terrible dans la collection Mirage de chez Delcourt. La collection Mirage, c'est toujours des histoires un peu à très forte dimension humaine. Et là, on a vraiment un très beau, très bel album. C'est l'histoire d'un petit gars, un petit garçon, qui s'appelle Matteo. Il a tout pour être heureux. Ses parents sont sympas. Ils lui lisent facilement une histoire le soir. Il a un super petit chien. Monsieur Panacion a repris le petit chien qu'il avait utilisé dans Cabo Caboche, dans son adaptation de Cabo Caboche. Il lui a un peu redressé les yeux. C'est Tommy. Cette fois, il s'appelle Tommy, ce petit chien. Il est vraiment très, très marrant. Il habite une jolie petite maison alors qu'il y a plein d'immeubles autour. Vraiment, il est aimé. Bon à l'école. Ok. Il est pas forcément très bon. Enfin, il est surtout en perte de vitesse parce que, en fait, il a peur quand arrive le soir parce qu'un homme en noir vient le terroriser. Et en fait, l'idée, c'est que Matteo, finalement, qui a une très forte imagination, hein. On le voit, il aime les dessins animés et tout ça, et il collectionne des personnages, des figurines qu'il trouve dans les Kinder, Super Aigle, etc., etc. Il a vraiment une très forte imagination, et on a le sentiment, en fait, qu'il est en train de perdre un peu pied, que son imaginaire est en train de l'envahir et, de lui faire perdre pied avec la réalité, ce qui fait qu'il ses résultats baissent à l'école, etc., etc. Bref, et que son imagination même se retourne contre lui, puisqu'il y a cet homme noir qui vient le hanter, et que des fois il voit même en plein jour sur le toit de l'immeuble d'en face quand il est dans la cour de l'école, etc., etc. Donc ça lui perturbe sa vie, ses parents s'en inquiètent, ils vont l'emmener au psy. Et en fait, je veux pas spoiler, mais ce qu'on va découvrir, c'est que finalement c'est pas la réalité qui a envahi le réel, c'est que le réel pousse en fait Matteo à se réfugier dans l'irréalité pour échapper en fait à des événements qu'il a vécu. Voilà, c'est vraiment très très fort, très très bien dessiné par Monsieur Panacion, qui vraiment magnifie cette histoire avec quelques trouvailles graphiques, notamment quand l'homme en noir arrive, etc., ou apparaît. Vraiment, c'est une grande réussite. C'est assez dur. Je crois que vous avez arrêté avant la fin vous-même.
Enfin, moi, je l'ai lu, et quand effectivement, comment on finit par deviner ce qui se cache, hein, derrière,
qui se trame,
ouais,
etc.
Bien, effectivement, c'est dur, quoi. C'est hyper hyper dur. Aussi, je vous ai confié la tâche de devoir faire la chronique parce que
c'est très très fort, ouais. C'est très réussi.
Non, c'est très bien. Je voulais pas que ça soit salopé, mais ouf.
Ah bah, quand j'ai pris conscience, moi aussi, à peu près à la moitié de l'album, de ce qui était vraiment en jeu, je dois avouer que j'ai été assez saisi et que j'appréhendais un petit peu la suite. En tout cas, c'est graphiquement, ouais, c'est vraiment réussi. Il y a plein de pages, notamment quand des scènes où l'homme en noir est là. Et t'as aussi vraiment tout un jeu autour des immeubles. On dirait presque Otomo quand il faisait cette histoire avec cette petite fille qui volait une espèce de one shot là comme ça sur fond d'immeuble. Parce que notre petit héros, par moment, a comme le pouvoir de voler, notamment quand il rêve. Je me demande s'il n'y a pas un petit clin d'œil. Ça m'étonnerait pas de Monsieur Panacion, il est facétieux.
En tout cas, ça me rappelle un ouvrage. Alors là, c'est carrément un ouvrage jeunesse, livre pour enfants, réalisé par Monsieur Laurent Houssin, vous rappelez pas,
avec le petit garçon qui portait son caillou.
Ses sacs de cailloux, il avait plein de cailloux.
Ouais.
Et comment effectivement l'imaginaire des gamins et quelque part aussi un mode de survie, puis à l'image de ce qu'ils endurent.
Métaphoriquement,
ouais. J'ai retrouvé ça, moi, dans l'homme
en noir.
Et graphiquement, c'est très bien mené. La dramaturgie est très bien montée. On n'est pas dans le pathos, mais pourtant, l'histoire est terrible. Voilà, L'homme en noir de Monsieur Panacion et
Di Gregorio.
Voilà,
collection Mirage de C. Delcourt. Je crois que c'est ainsi que va se clore notre 480e émission.
479e selon le grand livre.
Non. Vous trafiquez la réalité.
Mais moi, je ne trafique pas. Il faudra juste que vous me trouviez l'émission perdue.
Je vais vous la montrer sur le blog juste après. Tiens, il est malin ce Roger. C'est juste pour vous dire, ouais, vous pouvez nous retrouver sur le blog. Sachez que vous pouvez faire comme le petit Christophe, nous écrire des lettres. Hein, ça nous fait plaisir, des chroniques, parce que vous lisez peut-être des choses que l'on n'a pas lues. Longue vie à Canal B, à ses 40 ans. Tiens, t'as vu qu'il y a... Ne regarde pas, mais dans le studio d'à côté, il y a deux affreux. Ouais, il y en a un qui nous fait coucou, je vais lui faire coucou pour lui faire comprendre qu'on est venu en paix.
Les vieux de Un Poco Too Much ?
Oui, il y a Poco et il y a Too Much juste devant lui. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
On m'avait dit qu'ils étaient dans le car, qu'ils s'est effondré dans le ravin en Roumanie.
Moi je croyais qu'il avait pas le droit de sortir de chez lui avec son bracelet, mais je comprends pas.
Je ne sais pas. Justice laxiste, justice nulle part. Voilà ce que je dis plus, moi.
À la semaine prochaine en tout cas.
Tant qu'on a le droit.